Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Je pense qu'on est quand même à un moment charnière où l'activité de gîte et maison d'hôte se professionnalise. On sort du schéma, comme je le disais tout à l'heure, des personnes peut-être plus à la retraite ou en fin d'une première activité qui veulent basculer progressivement. Là, nous, c'était on crée un gîte et ça va être une activité principale au moins pour une des deux personnes.
Bonjour à tous et bienvenue sur les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro, tous les troisièmes jeudis du mois, un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Cédric.
Bonjour Laura.
Bienvenue à mon micro sur les Clés du Gîte. Je suis très heureuse que tu aies accepté, non sans insistance de ma part, à témoigner sur le podcast. Donc tu es mon mari.
Oui. Oui. Oui, ça je va. Le veux.
Bon, jusque-là, tout va bien. Je trouvais intéressant que tu puisses participer parce que tu as deux casquettes. La première, c'est que tu es propriétaire d'un gîte de groupe. Et ben, bon, tu es très bien placé pour savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu interviewer de gérant de gîte de groupe. Mais aussi, c'est que ce n'est pas ton activité principale. Et tu es l'époux d'une gérante de gîte. Et je trouvais intéressant qu'on puisse décortiquer un peu ça parce que ça a changé notre vie, ça change ton quotidien. Et c'est important qu'on puisse présenter aussi ce profil-là à nos auditeurs.
Oui.
Pour commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bonjour. Donc, je suis Cédric Andrieux. J'ai 41 ans. Je travaille sur Toulouse, mais beaucoup en télétravail, ce qui me permet d'être à tes côtés le plus souvent possible. Et donc, je suis originaire de Toulouse la semaine et du Lot le week-end, puisque mes parents sont tous les deux du Lot. Et donc, ils ont beaucoup voyagé, mais surtout entre Toulouse et Cahors. Donc voilà, j'ai grandi principalement à Cahors durant les vacances et les week-ends.
Comment est né le projet de reprendre un gîte de groupe ?
Presque par hasard. On était à un apéritif chez mes parents et il se trouvait que c'était pour présenter les nouveaux voisins. Et ces nouveaux voisins, en fait, vendaient ce gîte, le Moulin de Bernard, qui se trouve à quelques kilomètres de là où ils vivent actuellement, et à quelques kilomètres de chez mes parents. Donc il se trouve que cette maison, moi je la connaissais puisqu'elle n'est pas très loin, donc comme je disais, donc voilà, je l'avais déjà vue de loin il y a quelque temps. Donc on s'est dit, tiens, on peut aller visiter pour voir,
Par
on ne sait jamais, ça peut intéresser quelqu'un. Et puis mais après la visite, on s'est dit, mais c'est vraiment bien, presque on s'est dit, mais nous ça nous dirait de louer ça, et si nous ça nous dit... On s'est peut-être dit un peu prétentieusement, mais on s'est dit, mais il peut y avoir de la demande pour ce genre de location, sachant qu'il y en avait déjà, hein, puisqu'il était déjà en activité. Donc on s'est dit, c'est pas une création, c'est un développement. On est sur place, mes parents sont pas loin parce qu'ils sont toujours de bonne volonté, puis ils nous aident beaucoup, mon père est hyper équipé. On avait démarré la rénovation de notre maison pas très loin, donc ça pouvait faire sens de se dire, bah, tiens, c'est le moment pour franchir le cap et se recentrer sur le Lot. Donc on a dit, bon, tiens, on va réfléchir à ça de manière plus sérieuse.
Et comment ça s'est passé, la suite ?
Ben, la suite, on y a vraiment réfléchi. On a assez rapidement quand même consulté plusieurs banques parce que ça n'a pas été évident. Parce qu'évidemment, il nous fallait faire un emprunt assez conséquent. Et à la fin, on a réussi à le faire avec la banque des vendeurs puisque eux connaissaient la rentabilité du gîte. Et donc là aussi, ça a quand même été assez long. En 2018, on a visité le gîte et je crois que c'était même en début 2018 et en début 2019, on a signé. Donc, il a fallu plus d'un an pour arriver à monter tout le business plan et le crédit.
Obtenir un crédit.
Et l'ensemble de toutes ces formalités-là.
Pourquoi tu penses qu'on a eu du mal à trouver une banque qui nous suivait ?
Alors, je pense qu'on a eu du mal parce que déjà, l'activité de gîte, évidemment, est connue dans le Lot, c'est un département touristique. Par contre, en général, jusqu'à présent, et c'est ce qu'on peut voir maintenant, ça reste plutôt des personnes qui sont en fin d'activité ou qui n'ont pas forcément des emprunts énormes pour, qui n'ont pas besoin, en gros, de revenus. Enfin, je généralise peut-être, mais qui n'ont pas besoin de revenus. Là, nous, c'était un gîte de groupe, donc déjà atypique. Et en fait, c'était une entreprise que l'on crée et les banques, elles sont.
Très frileuses.
Je pense qu'elles n'étaient pas habituées et pas prêtes à ça. Je me rappelle juste d'une chose, petit détail que je trouvais assez cocasse, c'est que le premier refus de la banque qui nous a quand même accordé le prêt nous a dit le Lot n'est pas assez touristique, ça ne peut pas marcher. Bon, je schématise et je caricature à peine. Voilà.
Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que moi, je voulais en faire mon activité principale et c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et la perte d'un salaire sur le ménage, je pense aussi que ça portait un peu préjudice à notre demande, non ? Tu ne crois pas ?
Sûrement. Après, comme on le sait, les banques sont assez frileuses, hein, elles ont besoin de garanties. Et je pense qu'il y avait effectivement le fait qu'on se lançait à... Toi, tu te lançais sans revenu, du coup, derrière. Et puis, c'est un modèle économique qu'elles ne connaissent pas assez. Et on l'a fait en 2018. Je pense qu'on est quand même à un moment charnière où l'activité de gîte et maison d'hôtes se professionnalise. On sort du schéma, comme je le disais tout à l'heure, des personnes peut-être plus à la retraite ou... en fin d'une première activité qui veulent basculer progressivement. Là, nous, c'était, on crée un gîte et ça va être une activité principale au moins pour une des deux personnes.
Alors, on a eu les clés le 15 janvier, on a poussé la porte quelques jours après. Par quoi on a commencé ? Comment ça s'est organisé ?
Ben, très rapidement... On avait déjà les idées de refaire des aménagements, déplacer des cloisons, détapisser, isoler certaines choses. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a lancé. Donc moi, clairement, j'ai posé des congés pour ça. Et puis, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait clairement sous-estimé la charge de travail déjà pour remettre le gîte tel qu'on le voulait. Et également ensuite pour juste la gestion du gîte, quoi, puisque on se disait, quand c'est loué au week-end, 3 jours de ménage, et après les 2 autres jours, tu peux revenir toi sur Toulouse. Mais en fait, t'es pas revenu sur Toulouse depuis qu'on a eu les clés, quoi, quasiment, j'exagère, mais voilà. Donc ça a été ça, et après, assez également rapidement, vers je crois que c'était février ou mars, même si on s'était renseigné auparavant sur la partie ERP, lorsqu'on a reposé les questions aux mêmes personnes, mais aussi à des personnes différentes, les réponses étaient également différentes.
Alors, je précise juste pour les personnes qui ne seraient pas au courant, donc ERP, c'est établissement recevant du public, donc un gîte au-delà de 15 couchages devient ERP. Donc nous, on a 28 couchages, on ne l'a pas précisé, mais... c'est quelque chose qu'on avait vérifié avec les anciens propriétaires pour être sûr qu'on rachetait quelque chose qui était légal, et etc. Ils avaient été flous, mais nous avaient dit que oui, il n'y avait pas de problème et ils n'avaient pas eu à passer ERP tout en pouvant continuer l'exploitation. Et nous, on nous a dit que non.
Voilà, on nous a dit que non. Et puis, bon, après beaucoup de démarches et d'audit et de modifications, mise en place de porte coupe-feu, on a pu avoir la certification et la confirmation qu'on n'avait pas besoin d'être un établissement recevant du public, et donc on n'avait pas besoin de faire 5000 euros de travaux. Voilà, c'est à peu près ça, et ça a été un grand soulagement au final, puisque voilà, on a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels avec cette partie-là. Et on a pu ouvrir en avril pour la première location.
Ouais. En fait, les propriétaires avaient continué à prendre des réservations. Donc, en plus, quand on a fait l'acquisition du gîte, on avait 9000 euros d'acompte pour les locations à venir. Et l'agenda était déjà bien fourni, hein, quand même. Les premiers mois étaient quasiment complets. Ce qui était pour nous... Un matelas de sécurité, à la fois financier, mais aussi pour se dire, effectivement, il y a la demande, et puis on va pouvoir de suite se jeter à l'eau. Et d'un autre côté, on avait donc les clés en janvier, mais la première location arrivait en avril. Donc il y a eu un petit moment où on s'est dit, mon Dieu, comment on va payer les échéances d'emprunt ces 4 mois où il n'y a pas d'activité. Et d'un autre côté, moi, je dis souvent, heureusement qu'il y a eu ces 4 mois, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi ?
Oui, c'est ce que... Voilà, j'avais oublié, mais effectivement, c'est assez important si les personnes qui achètent un gîte arrivent à trouver le bon timing. Le bon timing, c'est effectivement de ne pas avoir de location de suite. Évidemment, sans se mettre en danger, mais pas avoir de location de suite pour prendre le temps de s'approprier le gîte. Et je ne parle pas que de la partie déco, en fait, mais vraiment s'approprier le gîte, comment il fonctionne. Voilà, ça reste une maison, il faut trouver tous les éléments qui font que la circulation dans les pièces, la petite partie électrique, voilà, quel que soit le niveau et l'état électrique, mais il est important de bien maîtriser le bien, parce que quand les locataires vont arriver et...
Poser des questions.
Ils auront des questions ou après ça peut arriver hein, que les plombs sautent parce que on peut mettre trop d'équipements électriques, voilà, ces choses-là, il faut savoir répondre et pouvoir les dépanner assez rapidement, quoi.
On a fait notre troisième saison, ça va faire 3 ans qu'on a acheté en janvier prochain. Qu'est-ce qui pour toi a été la plus grosse difficulté?
La plus grosse difficulté, pour moi, tu me poses la question, pour moi, c'est vraiment d'avoir la triple casquette, du coup, qui est la personne, je t'aide, j'essaie de t'aider au maximum sur la gestion du gîte, et malgré tout, de conserver mon activité. Donc ça a été de sous-estimer toute cette partie entretien, j'ai envie de dire, du gîte. Au-delà de du ménage, hein, parce que évidemment il y a le ménage, mais c'est pas un appartement qu'on loue, qu'on loue, c'est une maison avec des extérieurs, une piscine, un jacuzzi, et donc il faut vraiment entretenir tous ces éléments-là. Donc ça a été pour moi vraiment le gros enjeu. Heureusement, côté pro, le télétravail est arrivé et enfin alors oui, il est arrivé pour quelques mauvaises raisons, mais il est arrivé. Et puis ça se passe très bien, donc j'ai la flexibilité nécessaire pour pouvoir être au maximum aux deux endroits en même temps. Mais c'est cette charge de travail que l'on n'avait pas anticipée, mais je par naïveté, mais également je pense par manque d'infos et de retour d'expérience sur la gestion d'un gîte de groupe. Parce qu'il y a vraiment cette particularité-là qui est énorme.
Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta semaine type? Alors, bon, pas à l'heure près, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais dans les grandes lignes, comment tu t'organises?
Alors, déjà, j'ai ma semaine type qui évolue tous les 2-3 mois, parce qu'il faut s'adapter, tout simplement. Mais si je prends celle du moment, c'est le matin, je me lève, dans la mesure où je ne suis pas sur Toulouse pour le travail, je me lève plutôt pour faire de l'entretien au gîte. Alors l'entretien, c'est mon fourre-tout, mais resserrer les robinets, resserrer tout ce qu'il y a à resserrer, ou nettoyer le spa, la piscine, l'entretien des skimmers, le passer un coup de balai, voire bon, de gros coups de balai, enfin voilà, tondre, tailler la vigne vierge, voilà. Donc ça c'est le matin, après je travaille la journée, des fois entre midi et deux, y a peut-être un truc à faire, on le fait. Et puis le soir, à partir de 18h30, je m'y remets. Donc après, là, c'est en configuration été parce qu'il fait nuit plus tard, c'est quand même assez agréable. Mais voilà, ça tourne, notre vie de toute manière tourne autour du gîte. Parce que, comme je le disais, on a un bien qui fait 700 mètres carrés avec les extérieurs associés. Et donc, l'entretien est important. Déjà, d'un point de vue juste bâtisse, enfin, pour qu'elle dure le plus longtemps possible, et ensuite également pour la partie location, parce qu'il faut que ce soit nickel. Donc on a un niveau d'exigence certainement trop élevé, mais ça reste le nôtre.
Mais ça, c'est la famille qui dit que c'est trop élevé. C'est pas les locataires. Est-ce que tu pensais que ce serait un tel bouleversement de se lancer dans ce projet ?
Non, évidemment pas, même si, moi je savais que j'allais vers l'inconnu, puisque bon, toi, t'as jamais géré un gîte, mais t'as fait le lycée hôtelier, t'as 20 ans, 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie, donc l'accueil, tu maîtrises et tu as une formation là-dessus. Moi, c'était pas du tout mon univers, donc je savais qu'on allait devant des changements, mais voilà, je savais pas les anticiper, et j'imaginais pas à ce point-là, mais... À vrai dire, je ne sais pas trop vers quoi j'allais, mais clairement, non, je ne pensais pas que ce soit aussi rapide, les changements que l'on a connus.
Qu'est-ce qui nous aide, soit dans le quotidien avec l'entretien, etc., ou par rapport à nos baisses de morale, les coups durs, est-ce qu'on a des soutiens?
Alors oui, évidemment, comme on le disait, bon, mes parents ne sont pas très loin, ma famille n'est pas très loin, donc mes parents, ma tante, ta cousine Charlotte, Jean-Fille, mon cousin Pierre qui nous aide dès qu'il faut sortir quelque chose avec un gros tracteur. Non mais enfin voilà, c'est ta famille quand elle n'est pas à Londres et qu'elle est en vacances dans le Lot le samedi.
Elle fait du ménage.
Une fois par an, ils ont droit à un ménage complet du gîte avec nous. Donc c'est une aventure familiale, c'est sûr. Parce que après, ils voient aussi effectivement l'enjeu et que, comme je le disais, enfin, on fait avec les moyens du bord tout en essayant de le faire de manière professionnelle. Mais les 700 mètres carrés de ménage en 7 heures de temps le samedi. C'est difficile de le faire à deux, enfin, c'est impossible. Donc, sans cette aide précieuse, on n'y arriverait pas. Et après, c'est aussi parce qu'on sait qu'on n'était pas loin de chez mes parents qu'on a également peut-être franchi le cap de l'achat, quoi.
Bon, on en profite pour leur faire des gros bisous et leur dire un grand merci pour tout leur soutien et leur aide si précieuse.
Spéciale dédicace.
Tu pourrais imaginer le même projet justement sans avoir la famille à proximité, sur une nouvelle implantation où on connaîtrait personne sur place, pas même des artisans, où on n'aurait personne à appeler au secours pour un tracteur ou une bétonnière?
Alors non, évidemment. Et encore plus non sur la même surface. Je dirais sur un gîte plus petit, peut-être, ça s'étudierait. Après, c'est toujours pareil, il faut se faire des contacts. Ben, nous, on a ma famille dans le coin, mais les artisans qu'on sollicite maintenant pour le gîte, on ne les connaissait pas avant le gîte. Donc voilà, quelque part, ça, on peut le faire n'importe où, entre guillemets. Mais je dis non, et puis voilà, ça s'anticipe, ça se prépare. Donc si on devait faire la même chose, avant d'acheter, on ferait le tour des artisans, et déjà pour les faire venir avant l'achat, qui nous conseille, entre guillemets, ou qui nous approuve l'achat. Et après, c'est la constitution d'une équipe. Moi, j'ai une vision peut-être un peu trop pro là-dessus, mais il est important de s'entourer et de se préparer pour les coups durs lorsque un bac à douche se casse, de pouvoir le changer assez rapidement. Voilà, si on n'a pas de plombier sous la main, c'est du stress. C'est surtout du stress, et évidemment, ce que l'on ne veut absolument pas voir, c'est des répercussions sur les locataires.
Qu'est-ce qui te rend le plus heureux avec cette aventure?
Ce qui me rend le plus heureux, c'est clairement de pouvoir travailler avec mon épouse. mais après je suis pas encore pleinement heureux parce que ça reste quand même compliqué de jongler entre le travail et les différents travails, mais c'est une étape. Et après, la satisfaction de toucher du doigt la vie d'entrepreneur, même si bon, c'est pas moi l'entrepreneur, hein, c'est toi, Laura, mais voilà, de voir de près ce que c'est de pouvoir travailler pour soi, même si clairement, comme je l'entends beaucoup, une fois qu'on est entrepreneur, c'est pas fini, super, j'ai plus de patron au-dessus de moi. Ben, en fait, son patron, c'est ses clients, donc c'est voilà. Enfin, c'est le niveau d'exigence reste toujours important, voire plus. Mais voilà, c'est working progress.
Si tu pouvais changer une chose, qu'est-ce que tu changerais?
Ben oui, alors si je pouvais changer quelque chose, enfin, ce serait plutôt essayer de rapidement pouvoir dégager suffisamment pour nous faire aider par, notamment, je pense au ménage, mais c'est parce que, évidemment, c'est le plus gros poste, mais de pouvoir avoir cette aide-là pour, et je le disais tout à l'heure, vraiment les mois d'été.
Quel est ton plus beau souvenir au cours de l'activité?
Alors, mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment lors de l'état des lieux de sortie, quand les locataires, et en fait, c'est assez égoïste comme plaisir, mais c'est voilà, qu'ils nous disent qu'ils ont passé un super séjour. Et je pense à un de cette année où ils nous disaient, bon, on fait beaucoup de gîtes de groupe. Parce qu'effectivement, dans nos locataires, au final, ce n'est pas leur première expérience de gîte de groupe. Donc au final, ils ont des fois plus d'expérience que nous sur les gîtes de groupe, évidemment, puisqu'ils en font plusieurs. Donc où ils nous disent, ah non, vraiment, vous êtes dans notre top 3, c'est super. Le ménage, c'était chouette. C'était chouette. C'était...
Le ménage, c'est impeccable. C'était
impeccable. et ils savent nous remonter les petits détails que l'on a mis en place pour leur rendre la vie facile. Voilà, c'est vraiment ces satisfactions-là. Quelque part, c'est le sentiment du travail bien fait, quoi.
Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet?
Alors, les trois conseils, donc un porteur de projet, il faut évidemment... je pense qu'il est nécessaire qu'il est, avant de trouver le bien, savoir le modèle, ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il ne parte pas sur un gîte de groupe juste parce que la bâtisse lui plaît, mais vraiment qu'il ait en tête la capacité, ou que ce soit une chambre d'hôte, hein, qu'il sache ce qu'il veut faire et qu'il trouve le bien adapté, et non pas s'adapter au bien, parce que ça change tout simplement. Après, évidemment, de toute façon, c'est plutôt en amont, mais qu'il ait... bien préparer la partie financière, c'est indispensable. Et il ne faut pas négliger cette partie-là en se disant bon, le tout c'est de rembourser les échéances. Non, il faut arriver à assez rapidement dégager un salaire pour qu'on ne s'épuise pas et que l'on ait rapidement le sentiment et les fruits de notre travail, quoi. Donc, parce que la partie psychologique est vraiment la plus importante. Et après, le dernier point, c'est une fois que tout est prêt, surtout ne pas trop être sûr de ce que l'on a pu planifier et toujours penser à l'imprévu. Donc voilà, s'attendre au mieux, mais préparer le pire, quoi.
Est-ce que c'est difficile pour toi que ce soit mon activité principale ? Est-ce que tu sens que parfois il y a un décalage entre nous deux sur nos investissements différents et sur la charge mentale ?
Ben oui, enfin, c'est sûr que j'aimerais des fois que tu puisses la partager avec moi parce que ben, te voir gérer la blanchisserie ou te voir gérer ben, tout, ne serait-ce que les relations avec les futurs locataires ou ces choses-là, c'est quelque chose que je mesure peu et mal, mais après, enfin, malheureusement, ça fait partie de la répartition des tâches et pour l'instant, je ne suis pas en capacité de t'aider là-dessus. Et surtout, je suis toujours, je ne vais pas passer de la pommade pour passer de la pommade, mais assez admiratif de la façon dont tu arrives à communiquer, parce que je pense que c'est clairement aussi dans ta formation, de manière très positive, mais toujours, malgré tout assez ferme sur les divers éléments de la location ou ces choses-là. Donc, voilà.
Moi, je dirais qu'il y a parfois une source de conflit, c'est que j'exagère, parfois, du coup. Parfois, je peux être frustrée du manque de temps que tu as à consacrer au gîte, parce que forcément, ben, c'est mon quotidien, c'est mon activité principale. Mais ça, c'est un travail que je dois faire, c'est un problème avec moi-même. C'est que je me dis, je voudrais qu'il puisse réagir au quart de tour quand je lui dis, il faut faire ci, il faut faire ça, et je voudrais que tu puisses être ce joker qui n'ait pas de contraintes.
Oui, bah en fait c'est assez partagé, mais effectivement j'aimerais pouvoir être aussi disponible, mais je pense qu'il est important pour chacun de nous de pouvoir ranger notre frein là-dessus, parce que j'essaie d'être pro dans tout ce que je fais et voilà, j'ai toujours un travail, donc j'essaie de le faire à fond, tout en y mettant des barrières, puisque clairement ce n'est pas un hobby que de gérer un gîte, donc je ne gère pas le gîte, mais enfin je t'aide à le gérer, et donc il y a aussi des contraintes là-dessus, donc quelque part ça fixe les limites de chaque côté, quoi, même si ça laisse peu de temps au reste.
Est-ce que le gîte t'a fait changer ta façon de travailler, je veux dire pour ton emploi principal ?
Je me force à être plus efficace, je ne sais pas si c'est possible, comment dirais-je ? Je sais que si je laisse, et ça c'est, je sais même plus dire si c'est le travail ou le gîte, mais les deux ont beaucoup de points communs. Mais je sais que si on laisse pourrir un sujet, il va pas s'améliorer, il va se pourrir, c'est pas du vin. Et je m'en sers dans les deux, à savoir quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de le résoudre le plus rapidement possible parce que ça ne va pas faire en s'améliorant.
Et tu m'avais dit aussi que ça t'avait permis de prendre un peu de recul aussi et de relativiser sur des problèmes que tu pouvais rencontrer au travail et des problèmes qu'on peut rencontrer au gîte, et que forcément tu voyais que les enjeux n'étaient pas les mêmes.
Ben oui, bien sûr. Après, c'est toujours délicat, mais forcément, quand on a vraiment quand on a une priorité vis-à-vis du gîte sur l'accueil des locataires, enfin, ça me paraît forcément plus important parce qu'on se met nous-mêmes en danger, dans le sens où on ne veut pas que les locataires aient
une mauvaise expérience
et soient impactés. Après, dans le travail, dans la mesure où je ne suis pas dans le secteur de la santé, forcément, ben, on relativise toujours un peu plus. Non pas que les problèmes sont moins importants, mais que l'urgence est en général différente. Donc ça permet d'avoir de garder la tête froide la plupart du temps voilà, sur les sujets. Et je ajouterais que ben, de toucher du doigt voilà, la vie d'entrepreneur, forcément, ça, également, ça ajoute cette démarche-là dans mon travail, toute prétention mise de côté, d'envisager mon travail d'un point de vue un peu plus entrepreneur et non pas d'un point de vue juste salarié et qui s'arrête à ce qu'on lui demande de faire, quoi.
Est-ce que tu penses qu'il est possible de concilier activité principale, activité de gîte ou de chambre d'hôte et vie de famille ?
Oula, je pense que ça l'est forcément. De toute façon, c'est ce qu'on essaie de faire au moins sur les deux premiers, le gîte et l'activité pro. Ça demande la rigueur, de toute façon, mais je pense que c'est quand même vachement lié à ce qu'on fait aussi. L'accueil clientèle, ça demande de la rigueur. Après, nous, pour l'instant, la vie de famille, on l'a mis entre parenthèses, mais bon, je crois que notre projet reste quand même assez atypique sur la partie volume ou dimension. Et puis, c'est quelque chose sur du court terme, sur la mise entre parenthèses, c'est obligatoire. Oui, ça l'est. Et avec de la rigueur. Et par contre, c'est quelque chose qu'il faut anticiper avant de se lancer dans ce projet-là. Voilà, anticiper dans le sens d'être sûr que on va avoir le temps de pouvoir tout faire et non pas se retrouver dans l'urgence.
Je dirais même qu'il faut se l'imposer, en fait, pour le bien-être de la famille, du couple et de chacun.
De toute façon, il faut absolument apprendre à lâcher. À un moment donné, voilà, pour pouvoir justement relâcher la pression et pouvoir faire une pause et repartir de plus belle après, quoi.
Oui, parce que sinon, on pourrait passer nuit et jour à travailler sur le gîte.
Oui, après, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut juste prioriser et faire l'indispensable. Et puis, penser à soi. C'est évident, on l'entend toujours, mais c'est parce que c'est vrai.
Nous en sommes déjà à la fin de cet agréable échange. Merci Cédric.
Avec plaisir Laura.
Donc comme tu le sais, j'aime demander deux dernières questions à mon invité. La première, quel établissement te fait de l'œil pour m'emmener en week-end?
Bah, j'ai envie de dire déjà tous ceux et celles que tu as pu interviewer. Voilà, j'avoue que je ne suis pas forcément de près... et je prospecte pas malheureusement encore pour t'inviter quelque part, mais à chaque fois c'est une très belle découverte. Et malgré tout, pour te donner un établissement, ce serait sur l'île de Beauté, parce que on l'a découvert. Moi j'ai découvert c'était dans notre vie d'avant.
Quand on partait encore en vacances.
Mais voilà, c'est un endroit où l'on retournera, et ce serait la bergerie Amareda, en Corse, qui a l'air somptueuse. Voilà, donc c'est peut-être une destination.
Ah, il me tarde, on vous dira. J'aimerais bien, en tout cas. Bon, et la dernière question, c'est quel titre de musique illustre le mieux, selon toi, l'état d'esprit du moulin, ou en tout cas notre vie?
Bon, après, j'ai toujours été nul à ces choses-là parce que c'est tellement lié à l'humeur du moment, ça serait toute une playlist.
Ouais.
Mais après, plus pour l'image que je me fais des paroles de mon point de vue français, parce que je crois que c'est pas forcément lié à ce qu'ils se disent réellement. Donc, ce serait un titre de Marvin Gaye et Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, voilà, qui quand même veut dire qu'à deux, on a peur de rien.
Ouais, j'adore. Super. Merci beaucoup, Cédric. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter?
Tout simplement par les clés du gîte.
Donc
Laura
moi.
Vignol, les clés du gîte.
Oui, non, il faut dire que tu n'es pas sur Instagram, tu n'es pas du tout réseaux sociaux. Donc, en fait, il faudra passer par moi si vous voulez laisser un petit message à Cédric.
Exactement.
Un grand merci, c'était très chouette de partager ce moment avec toi. J'espère que ça plaira aussi aux auditeurs. Et je te dis à très bientôt, puisque on va continuer notre journée.
À tout de suite.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte. No